fois lisons-nous et on enquête sur la lecture comme expérience. Vincent Broca et Anne Crémieux. Lire le genre, troubler les genres.
J'aimerais commencer par ceci, par cette citation-là qui vient de Virginia Woolf et de A Room of One's Own, une chambre à soi, le texte extrêmement connu de Virginia Woolf, non pas sur le genre, mais sur l'écriture des femmes, sur la place que les femmes ont dans l'écriture, comment les femmes ont besoin d'une chambre à elles pour écrire. Et elle dit ceci au tout début, elle dit, et vous avez la traduction de Marc Dariussec, « I will never be able to fulfill what is, I understand, the duty of a lecturer to hand you, after an hour's discourse, a nugget of pure truth, to wrap up between the pages of your notebooks and keep on the mantelpiece forever. » All I could do was to offer you an opinion upon one minor point which leaves the great problem of the nature of woman and the nature of fiction unsolved. Okay? Donc, elle dit ça, je trouve ça extraordinaire, au début de son livre, qui va traiter de la question des femmes et de l'écriture, elle dit, oui, en fait, je ne sais pas si je vais pouvoir faire ce qu'un conférencier doit faire, puisque à l'origine ce texte est une conférence, ce qu'un conférencier doit faire, c'est-à-dire vous livrer des éléments de vérité sur cette histoire de la relation des femmes à l'écriture. En d'autres termes, je crois que ce qu'elle est en train de dire, et c'est un peu, moi aussi, je me fonds dans son discours pour dire, voilà, je suis moi-même là en train d'essayer de vous produire un discours, mais je ne vais pas vous livrer de vérité, parce que je crois que ce qu'elle dit avant Hélène Cixous dans Le rire de la Méduse, c'est ça, c'est que il est impossible de définir une pratique féminine de l'écriture. Une impossibilité qui se maintiendra car on ne pourra jamais théoriser cette pratique. Et qu'est-ce qu'elle veut dire par là, Cixous? Elle ne veut pas dire que c'est impossible de la penser. Vous connaissez certainement tous et toutes Hélène Cixous. C'est elle qui définit en premier ce terme d'écriture féminine. Donc elle n'est pas en train de dire, attention, je parle de l'écriture féminine et je ne veux pas en parler. Non, ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle dit, attention, on parle d'écriture féminine, on va essayer dire ce que fait l'écriture des femmes ou l'écriture féminine, il faut voir ce que ça veut dire d'ailleurs, à l'écriture, mais on va essayer de ne pas enfermer les femmes dans ce terme écriture féminine, et c'est-à-dire dans une essentialisation de ce que seraient les femmes quand elles écrivent, ou de ce que serait la femme ou le féminin. Tous ces termes qui sont bien entendu des termes essentialistes et qui sont éminemment problématiques et que Cixous et d'autres, Butler et les autres, ont cherché précisément à essayer de redéfinir et de contester. Hein. Elle dit « On ne pourra jamais théoriser cette pratique, l'enfermer, la coder, ce qui ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Mais elle excédera toujours le discours qui régit le système phallocentrique, elle a et aura lieu ailleurs que dans les territoires subordonnés à la domination philosophique théorique, elle ne se laissera penser que par les sujets casseurs des automatismes, les coureurs de bord, qu'aucune autorité ne subjugue jamais. » D'accord ? Donc on comprend bien ces discours, hein, c'est des, comme en anglais, on dirait c'est des huge claims, mais on va comprendre peut-être un peu mieux cette citation que certainement les unes et les autres vous connaissez déjà, mais on va comprendre peut-être un peu mieux cette citation à la lumière d'une auteure dont je vais parler juste après et qui est Kathy Acker. Alors je crois que s'il y a indubitablement, comme le dit Julia Kristeva, une force corrosive dans l'écriture qu'on attribue aux femmes, il est aussi, il semble difficile de définir essentiellement ce que serait une écriture féminine. De définir une essence de l'écriture des femmes, et peut-être même serait-ce dangereux de le faire. C'est un peu ce que Cixous veut dire. Car quand Cixous parle de l'écriture féminine, hein, ça a d'ailleurs été beaucoup remarqué, et on en a fait beaucoup la critique, elle parle beaucoup d'auteurs masculins pour parler d'écriture féminine. Hein, elle parle d'Apollinaire, elle parle de Genet, par exemple. Hein, elle cite Genet. Et donc peut-être faut-il penser la question autrement, et se demander, déplacer le questionnement, et plutôt que de se demander ce qui fait une écriture féminine, essentiellement, plutôt essayer de se demander ce que les questionnements de genre, et donc la question de l'écriture féminine et du genre sont différents, bien évidemment, ce que les questionnements de genre font à l'écriture, et comment ces questionnements ont parfois subverti ou troublé les genres littéraires. Et donc, c'est ce que je veux essayer d'exposer rapidement à travers trois exemples qui sont issus de la littérature nord-américaine et qui sont certainement inconnus de vous. Kathy Acker, d'abord, que je présenterai très, très, très brièvement, mais dont je veux lire avec vous un texte, même si vous ne l'aurez pas sous les yeux, mais je vais essayer d'en donner les quelques étapes majeures. Hein, ce texte, qui s'intitule « Seeing Gender », et où elle parle de son advenue à la lecture, précisément, hein, on se branche précisément sur Fontaine, lire le genre, ou lire avec le genre, ou qu'est-ce que fait le genre à la lecture, donc son advenue à la lecture et son advenue aussi à l'écriture, surtout. Où elle dit, pour elle, le genre, c'est la mort. Bon, donc on va voir ce qu'elle entend par là. Donc Kathy Acker d'abord, ensuite je parlerai de Rosemary Waldrop, qui est une poète américaine d'origine allemande. Elle est allemande au départ et elle a écrit la totalité de son œuvre en anglais. Et on va s'intéresser à deux ou trois choses qu'elle fait dans la grammaire. C'est vraiment pour essayer de donner des exemples extrêmement précis de ce que font les auteurs précisément dans l'écriture quand ils pensent à mettre en place des stratégies de genre ou des stratégies qui essayent de penser ce que le genre fait à l'écriture. Et là, Rosemary Waldrop, vous allez le voir, s'intéresse à la grammaire, précisément, en anglais, donc. Et puis, je pensais parler d'Alice Notley, mais je parlerai d'elle très très rapidement, je parlerai donc à la fin de Stacey Doris. Et tout cela est censé ne pas être trop long, mais j'imagine que j'ai déjà beaucoup parlé. Alors, je remets mon compteur à zéro. Il se trouve que en introduction du volume 2 Genre, on est trois co-auteurs, hein, j'ai coordonné ce livre avec Charlotte Coffin et Isabelle Fandari, et nous disions dans l'introduction, que fait donc la littérature au genre, au mot genre? Elle sème le trouble qu'avec Judith Butler, elle-même lectrice de Derrida, on appelle le trouble dans le genre. L'écriture défait sans cesse le partage, elle mélange les voix, superpose les identités, défait les assignations. Et donc, il me semble que ce qui est intéressant ici, et c'est pour ça que je parle de littérature quand on m'a demandé de parler de lire le genre, vous voyez, j'ai déplacé la question quand même sur mon territoire, j'ai tiré la couverture à moi, c'est parce que je crois que fondamentalement, la littérature, précisément, fait des choses au genre, c'est-à-dire qu'elle trouble et elle nous permet de penser peut-être même des impensés du genre. Alors donc, Kathy Acker, qui est cet auteur que vous voyez là, en couverture de ses livres, qui est morte assez jeune d'un cancer, et qui était donc cette romancière, disons, même si c'est un peu difficile de coller un genre, justement, littéraire sur ses livres, cette romancière qui s'est attachée, expérimentale, qui vivait à New York, et puis ensuite à Londres, et puis au Mexique, et qui était dans le sillage de tout le groupe qu'on a appelé le groupe Sémiotexte, qui est ce groupe qui, à New York, a fait beaucoup pour amener ce qu'on a appelé la théorie française, donc la théorie critique française, donc les Derrida, les Lacan, etc., donc pour les Foucault, pour amener toute cette théorie-là, cette philosophie-là, aux États-Unis. Hein. Donc elle faisait partie, ou elle a été nourrie par les gens qui ont fondé ce groupe Sémiotexte, et qui amenait cette théorie et ça transparaît dans ses livres à tel point que donc elle a écrit un livre d'essai qui s'appelle Bodies of Work, hein, Bodies of Work, hein, donc des corps de travail, hein,
pas, doesn't work.
Et donc, où c'est son œuvre un peu théorique sur le cinéma, sur la littérature. Elle parle de Sade, elle parle de Peter Greenaway, par exemple. Et elle a cet essai absolument fabuleux qui s'appelle Seeing Gender, voir le genre. Voir le genre. Où elle essaye de parler de elle-même quand elle était jeune, dans son enfance, quand on lui a assigné un genre très 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 tôt. Hein. Elle s'est vue non seulement définie comme fille, mais en plus elle dit que sa mère, qui était absolument, alors je ne sais plus ce qu'elle emploie comme terme pour parler de sa mère, mais qui était, qui voulait absolument la marquer du sceau de son genre, hein, donc il fallait qu'elle porte du rose, etc., etc., toutes ces choses-là qui font que non seulement on a une on est défini comme fille, mais en plus on ajoute à cela des déterminations et des déterminismes qui vont nous enfermer dans une assignation. Hein. Et donc elle parle de cela et elle dit moi ce que je voulais faire quand j'étais petite, c'est que je voulais être une pirate. Je voulais être une pirate, mais je ne pouvais pas être une pirate. Parce qu'on sait bien que, les pirates, c'est des hommes. Et je ne pouvais pas être une pirate non plus parce que je ne pouvais pas quitter ma famille comme les pirates peuvent le faire. Je ne pouvais pas aller dans des îles désertes comme les pirates peuvent le faire. J'étais véritablement l'enfant de mes parents et surtout de ma mère avec un père très faible et une mère très forte. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que, au lieu de... Alors, j'ai quelques citations là, donc je devrais m'en servir. Donc, elle dit que le genre, pour elle, avait à voir avec la mort. C'est-à-dire, ce qu'elle veut dire par là, c'est l'assignation qu'on lui a posée sur son être, genre fille, avait à voir avec la mort. Pour elle, c'était la mort, et elle voulait sortir de cette mort en s'échappant de cette assignation. Et comment pouvait-elle le faire ? En essayant de devenir pirate, mais pas simplement puisqu'elle ne pouvait pas être pirate dans son enfance véritablement, eh bien, elle est allée lire des histoires de pirates. Pour elle, aller dans les livres, se réfugier dans le domaine de l'imagination et de la lecture, donc, a été en quelque sorte une façon d'échapper à des assignations. Et à partir de cette réflexion-là, Kathy Acker, dans un texte qui est beaucoup plus compliqué que ce que je suis en train de dire, à partir de ces choses-là, Kathy Acker, donc passant de l'âge d'enfant à l'âge adulte, a gardé cette idée du pirate et de la piraterie pour précisément constamment s'échapper d'elle-même, hein, s'échapper de ces langues que l'on parle sans savoir même qu'on les parle. C'est-à-dire ces langues qui nous sont données, soi-disant données, et qu'on pense comme étant naturelles, alors que précisément on devrait essayer de constamment les aller à l'encontre d'elles-mêmes et constamment essayer de sortir de ces langues. Donc pour elle, la figure du pirate, c'est précisément ça. Elle dit en tant que, donc là elle reprend Butler hein, dans le cours de son essai, en tant que femme et en tant que donc conçue comme étant a womb, hein, un réceptacle, womb c'est la matrice, hein, donc comme étant un réceptacle, je pouvais être entrée, par contre je traduis littéralement parce que c'est vrai que ça a beaucoup plus de sens en anglais, je pouvais être entrée mais je ne pouvais pas entrer. Je peux être pénétré, mais je ne peux pas être pénétré. On parle de moi, on me donne un nom et on m'assigne une identité, mais je ne peux pas assigner une identité parce que toute la langue que je parle est une langue qui n'est pas ma langue. Okay, qui est une langue qui m'a été donnée. Donc elle dit, voilà, when I was a girl, I ran into books. Hein, véritablement, je me suis précipité dans les livres. Mais elle lit cela, et je trouve que c'est assez beau. Elle lit cela à, voilà, I was unspeakable. C'est-à-dire, à la fois, je ne pouvais pas me parler, on ne pouvait pas parler de moi, et donc, je me suis précipité dans le langage des autres. Je me suis précipité dans le langage des autres. I ran into the language of others. Et elle, à un moment de son essai, elle rapproche cela de Alice non pas dans les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, mais dans À travers le miroir, où précisément Alice se retrouve à aller dans d'autres livres que les livres qu'elle avait appris. Elle connaissait des livres de comptines, et tout à coup elle se trouve confrontée à d'autres livres, à d'autres genres, qui bouleverse sa compréhension du langage. Hein. Et donc, elle dit « Je suis Alice, hein, qui s'est précipitée hein, dans un livre de façon à se trouver elle-même. » D'accord ? Alors, c'est résumé à grands traits, c'est résumé à la serpe, mais ce qu'elle dit à la fin, c'est que ce n'est pas assez pour elle. Maintenant, d'accord, elle a trouvé la piraterie, elle a trouvé ce lieu pour, comme enfant, ce lieu du pirate, c'est-à-dire s'évader, s'échapper vers l'imaginaire, hein, et tout ça est absolument fondamental, mais ce n'est pas assez pour elle. Elle dit, je veux trouver le corps. Je veux trouver le corps maintenant. Mais elle dit, le corps, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, le corps, est-ce que c'est ça ? D'accord ? Ou est-ce que le corps, c'est-à-dire une matérialité presque naturelle, biologique, disons, ou alors est-ce que le corps, c'est d'autre chose ? Est-ce que le corps, c'est du langage ? Et bien évidemment, elle va dans cette direction-là, hein, en disant « je veux trouver le corps », c'est-à-dire des langages. Et donc, ce qu'on comprend à la fin, même si elle ne le dit pas exactement, c'est que sa façon de pirater, c'est d'aller vers l'écriture. C'est plus simplement de lire les autres, mais c'est d'écrire. Et donc, écrire pour elle, c'est précisément ce lieu qui lui permet d'échapper à la langue, d'essayer d'échapper, en sachant que c'est presque impossible, d'essayer d'échapper à la langue qu'on lui a imposée, précisément en se précipitant dans la langue des autres, mais dans « run into », il y a aussi quelque chose d'un peu agressif, hein, et donc en piratant la langue des autres. Et c'est ce qu'elle va faire dans son travail, c'est ce qu'elle va faire dans son œuvre. Par exemple, si vous lisez « Don Quichotte », je crois que ça a été traduit en français, il y a quelques romans de Cadillac, enfin romans, quelques textes de Cadillac qui sont traduits en français, notamment « Don Quichotte », ou ce livre-là, hein, je vous ouvre, vous allez voir... D'accord, si je fais ça, forcément, ça ne va rien vous dire. Mais, par exemple, voilà certaines pages du roman, d'accord ? Donc, vous voyez qu'elle fait des choses extrêmement audacieuses par rapport au genre même du roman. Hein. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va théoriser le plagiat. Le plagiat comme mode d'écriture. Donc, elle va revendiquer le plagiat, la piraterie littéraire, donc, hein, la piraterie littéraire comme mode d'écriture. Et ça, je trouve ça absolument formidable. Il faut dire qu'elle n'est pas la seule à faire ça. Beckett, déjà, parlait du plagiat, hein, bien évidemment, d'autres encore. Mais elle a systématisé ça. Et puis, ce qui me semble intéressant, c'est que si Beckett parle du plagiat dans le sens de, oui, bon, un auteur n'a pas à se soucier finalement du copyright, et on s'en fiche, on s'entre-plagie toujours, Montaigne disait, on s'entre-glose. Hein, mais pour Cadillac, c'est très très différent. C'est lié, comme je voulais exposer trop rapidement, à sa réflexion sur le genre. Et c'est lié aussi à sa réflexion littéraire qui consiste à essayer de troubler les genres littéraires, à véritablement les défoncer, hein, à faire exploser le genre littéraire, tout en faisant exploser les genres. Alors, par exemple, Don Quichotte, ça commence par une histoire d'avortement, hein, et Don Quichotte, contre toute attente, est femme, du genre féminin, en tous les cas dans le livre, et bon, ça flotte, et puis on ne sait pas trop ce qu'il est, ce Don Quichotte, on a vraiment du mal à savoir véritablement qui il est, on comprend que c'est ce héros qui cherche quelque chose, et en même temps c'est un anti-héros. Et alors tout est perpétuellement dans ces romans, tout est perpétuellement en flux, remis en cause, déconstruit, explosé, et la structure même du roman est explosée. À un moment, vous avez une histoire de la féminité, par exemple. À un moment, vous avez toute une transcription d'un rêve. À un moment, vous avez des citations de Sade. Bon, on a extrêmement... C'est comme une espèce d'énorme, comme ça, travail de recyclage. Mais ce n'est pas simplement du recyclage, c'est un recyclage qui va essayer d'exploser la notion même de genre du roman. C'est-à-dire peut-être de la faire revenir à ce que c'était que le roman au tout départ, c'est-à-dire un genre qui est précisément qui explose, qui fait exploser les autres formes, hein, qui sont la forme poétique, qui sont la forme de la romance médiévale, etc. etc. Donc il y a ce travail extrêmement complexe, on pourrait se dire, d'accord, c'est une auteure expérimentale, bon, c'est un peu, voilà, elle s'amuse bien. Non, c'est un travail extrêmement, extrêmement sérieux, profond et puissant sur ce qu'est le roman, ce que ça veut dire que le roman, et ce que ça veut dire que cette expérience qui part du genre, qui part du genre comme piraterie, ou comme opérateur de piraterie, pour ensuite mettre en place une écriture. Alors, ce qui est intéressant chez elle, hein, ce qui est intéressant chez elle aussi, c'est que forcément, elle reprend aussi toutes ces histoires de la femme comme objet. Hein, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure dans la citation que je donnais. La femme comme objet, la femme comme... on me nomme, je peux être pénétrée, mais je ne peux pas pénétrer. Okay. Donc, d'accord, bon, c'est des discours comme ça en tous les cas. Et c'est ce qui me permet de passer à Rosemary Waldrop, qui elle aussi travaille des questions similaires, notamment dans son livre « The Road is Everywhere, Stop This Body », qui a été traduit en français par Abigail Lang. Je ne vais pas vous donner la traduction ici, parce que je ne l'ai pas retrouvée chez moi, tout simplement, mais... elle est quelque part dans ma bibliothèque, mais en tous les cas, ça a été publié aux éditions de La Tente, La route est partout, hein, ça s'intitule La route est partout. Donc Rosemary Waldrop, c'est cette auteure d'origine allemande, qui est une poète, est aussi une traductrice, elle a traduit par exemple en anglais toute l'œuvre de Edmond Jabès, qui est vraiment, quand on n'est pas anglophone, de traduire Edmond Jabès, je ne sais pas si vous voyez qui est Edmond Jabès, allez voir qui est Edmond Jabès, auteur franco-égyptien absolument prodigieux, extrêmement difficile. Alors essayez de traduire ça quand on n'est pas native, quand en fait on a pris l'anglais comme une deuxième langue, c'est un travail extrêmement ardu. Mais c'est pour dire que Rosemary Waldrop essaye de se situer toujours aux frontières et de travailler avec les frontières. Et elle dit toujours que son système phonétique est quelque part au milieu de l'Atlantique. C'est-à-dire que quand elle retourne en Allemagne, on lui dit « Ah ben, vous parlez bien allemand pour une Américaine. » Et quand elle est aux États-Unis, on voit qu'elle a un fort accent allemand. Donc, je parle de cette condition, de cette femme, donc, qui est comme ça en flux, hein, et qui est sur des frontières, sur peut-être une indéfinition. Et son écriture cherche à penser cette indéfinition et une écriture comme flux. Hein. On va en voir des exemples ici très très rapidement. Dans ce livre-ci, je vous montre une page, vous allez vite comprendre. Vite comprendre ou pas d'ailleurs. Mais ici, vous avez un panneau, hein, donc limité à 60, ou alors ici, vous avez. Pour signaler qu'il y a une école qui approche. Tout ce livre a été écrit à partir des trajets qu'elle faisait entre son domicile et l'université dans laquelle elle avait enseigné, des trajets en automobile, et elle a voulu essayer de trouver ce sens du mouvement dans le poème. Hein. Essayer de travailler la forme poétique comme créant un flux qui serait comparable à quelque chose comme un déplacement motorisé. Okay. Et donc, pour cela, notamment, elle utilise le vers et la fin de vers comme jamais un moment de suspension, mais un moment qui lui permet de continuer véritablement dans le poème, donc avec l'enjambement, mais aussi en utilisant des mots de fin de vers qui peuvent appartenir soit à la phrase qui précède, soit à la phrase qui suit. Okay, au vers qui précède, pardon, je devrais dire, soit au vers qui suit. Alors, en quoi est-ce que ça concerne le genre ? Ben, en fait, elle se dit, elle a fait ce poème qui est assez efficace pour créer le flux. On ne sait jamais à quoi raccrocher les mots, donc on peut le lire comme ça, puis en fait, ce mot-là, il peut être attaché à ça, puis il peut aussi être attaché à ici. Donc on est constamment en train de relire ce texte, se remanie constamment. Hein. Alors ça, c'est typique de nombre de poètes expérimentaux américains, mais elle, ce dont elle s'est aperçue, c'est que ça avait à voir avec le genre. Pourquoi ? Elle a vu que ce qu'elle faisait, et c'est les éléments que j'ai mis en gras ici, hein, par exemple ici, « The massive cloud banks now you kiss », vous pourrez vous arrêter là, mais en fait, il faut dire « The massive cloud banks, now you kiss the words », vous pouvez vous arrêter là, mais en fait, il faut lire « The massive cloud banks, now you kiss the words, cover my mouth ». Ok ? Donc, vous embrassez les mots, mais les mots recouvrent ma bouche. D'accord ? Donc vous voyez, c'est typique, ça c'est un exemple typique de ce mot-là, il est à la fois l'objet de ce verbe et le sujet de ce verbe. Okay. Et donc c'est ce qu'elle fait partout. The first, alors once you introduce the first proposition, proposition branches into chains. Okay. Ou alors ici, weightless inside a density about to burn the air. To burn the air. The air won't take the imprint. Oui. Oui. Bon, alors là c'est un peu moins évident. Il faut forcément, on comprend qu'il faut forcément aller à la ligne. On pourrait très bien dire oui. Comme ça, d'accord, le sujet du pronom. Qu'est-ce que c'est que le pronom ? Qu'est-ce que c'est que le pronom ? We talk doubles the frequencies. Doubles the frequencies. Okay? Talk doubles the frequencies. Bon, alors, c'est ce poème qui est constamment comme ça en train de se réinterpréter. Et qu'est-ce qu'elle dit, elle, que je trouve vraiment intéressant, et je laisse ça à votre sagacité. Elle dit, en fait, j'ai compris que ça avait à voir avec le genre. Pourquoi ? Parce que ce que je faisais là-dedans, qui est toute ma réflexion depuis le départ, hein, Rosemira Waldrop, je ne l'ai pas dit, mais c'est une des grandes poètes féministes dans les années 60-70, une des grandes poètes féministes avec des choses assez agressives, à vrai dire. Et donc, ce qu'elle dit, c'est qu'elle s'est rendue compte à la relecture que ça a à voir avec le genre. Pourquoi ? Parce que ce qu'elle essayait de faire dans son écriture depuis le départ, c'est d'essayer de faire que les objets, hein, les relations d'objets et de sujets soient inversées ou soient constamment en flux. C'est-à-dire que la femme objet, d'accord, devienne sujet, ou puisse devenir sujet, ou redevenir objet si elle le souhaite. Et donc c'est exactement ce qu'elle fait là, en travaillant la grammaire, hein, en travaillant la grammaire, en essayant de faire en sorte que ces relations entre objet et sujet soient en perpétuel flux et en perpétuelle redéfinition. Elle dit, pour moi, vous en faites ce que vous voulez, pour moi, ça a été comme une illumination. J'ai vu que ce que j'étais en train de faire, c'était précisément tout ce qu'on avait essayé de faire dans la lutte féministe, c'est-à-dire essayer de dire, arrêtons de dire que la femme est un objet. Et comment est-ce qu'on fait pour arrêter de dire que la femme est un objet ? Il y a plein d'actions à faire, il y a plein d'activistes qui peuvent faire des choses, mais il y a aussi, et c'est la conviction des poètes, le travail de la langue. Comment est-ce que la langue peut, en profondeur, modifier, ou comment il faut modifier les structures de la langue en profondeur pour que le discours change. On le voit actuellement avec toutes les questions de l'écriture inclusive, comment est-ce qu'on fait avec ça ? Ou on le voit par exemple aux États-Unis avec le genre neutre. Vous savez, il y a plein d'adolescents ou d'adolescentes qui souhaitent ne plus être désignés comme « she » ou « he », mais comme « they ». Hein, comme they. Donc, moi, je connais plein d'enfants, je connais trois, qui se définissent comme they, qui parlent de eux comme they. Et donc, ça produit des phrases, si vous connaissez un peu l'anglais, mais j'espère que vous connaissez, sinon vous n'avez pas compris grand chose, mais si vous entendez un peu l'anglais, un père, une fois, m'a dit but that was before they was born. Okay? Donc, normalement, c'est they were, parce que c'est un pluriel. But it was before they was born. Donc on comprend que cette redéfinition du genre, hein, on utilise là, pour ceux qui... Tout le monde a compris cette histoire du singulier pluriel, bien évidemment. Oh, ok, ça va. Donc on voit bien ici qu'il y a, hein, c'est un exemple de comment est-ce que l'anglais américain, en l'occurrence, essaye de réinventer ses structures syntaxiques et ses structures de genre et de nombre grammaticales pour pouvoir essayer de redéfinir les relations genrées. C'est-à-dire que, ou on peut le dire à l'inverse, les relations genrées se redéfinissent, donc la langue essaie d'évoluer et on essaie de faire évoluer la langue avec elle. Mais ce qui est une faute de grammaire, hein, pour les puristes, ce qui est une faute de grammaire n'est pas une faute de grammaire. Okay ? Ou n'est plus une faute de grammaire. Ok, d'accord. Bon, est-ce que je m'arrête là ? Est-ce que la personne qui m'a parlé de Stacey Doris est ici ? Ok. Alors, je parle 30 secondes de Stacey. Stacey Doris, c'est une auteure américaine qui est morte maintenant. Elle aussi, il faut pas beaucoup de gens morts, mais malheureusement, elle peut être absolument incroyable. Que je connaissais bien parce qu'elle a beaucoup vécu en France. Et donc, c'est Doris, D-O-R-I-S. Elle a vécu en France et elle a beaucoup traduit la poésie française. Mais elle n'était pas que poète, elle était aussi romancière et puis elle était plein de choses en fait, traductrice. Elle a produit ce livre dont on serait bien en peine de savoir si c'est du théâtre, de la poésie, du roman, de l'essai, de la traduction. Celui qui s'appelle Conference qui a été traduit par Parlement en français. Elle s'est auto-traduit, elle a auto-traduit ce livre en Parlement en français, publié par POL, qui vient lui aussi de disparaître, décidément. Et donc, l'un des premiers livres qu'elle a publié en français, c'était publié sous le nom de Madame Wiener, M, donc M majuscule petit m, E, Wiener, c'est son nom d'épouse, effectivement, son mari, c'est Wiener, et ça s'appelle Une année à New York avec Chester. On pourrait se dire, ben dis donc, là, votre auteure, elle n'est pas tellement féministe parce qu'elle se publie sous son nom d'épouse. Oui, alors, effectivement, mais c'est tout un jeu chez elle, et elle commence ce roman. En fait, ce roman est une description de la vie de son mari Chester, qui est extraordinaire, qui est un héros extraordinaire. Donc, bien évidemment, tout ça est très, très ironique, même si elle aime beaucoup son mari, bien évidemment, on pourrait en discuter. En tous les cas, elle écrit sur ce personnage qui devient Chet, et elle le fait comme les mémorialistes du XVIIIe siècle. Et donc, elle va, par exemple, faire une préface à l'éditeur, à la fois ici, elle a publié un autre livre, qui est publié sous son nom de Madame Wiener, dont j'oublie le titre là tout de suite, mais elle va écrire ces deux livres comme une mémorialiste du XVIIIe siècle, et donc elle va parodier un genre pour l'ancrer dans la réalité du 20e et du 21e siècle, et pour s'amuser véritablement avec ce genre, et pour s'amuser avec nous aussi, lecteurs. Alors vous allez dire, ça, c'est pas tellement genré, mais en fait, c'est ce livre dont je vous parle très 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 rapidement, qui s'appelle donc Conference Parlement, et où Stacey Doris écrit un nombre de personnages absolument effarants, qu'elle nomme par exemple Belle Belle, qu'elle nomme Tragedy Comedy, qu'elle nomme Attar, comme Attar, qu'elle nomme Dad, qu'elle nomme Bird, qu'elle nomme Emily Dickinson, Ed Harvey, Kathy Acker, c'est un même personnage. Okay. Donc, ce qu'on comprend, c'est que tout à coup, elle défait complètement les identités. D'accord. Les personnages deviennent multivalents, on s'y perd complètement, on ne sait pas trop qui est qui dans le texte, même si ils ont des noms, d'accord. Et elle est en train de défaire les identités et de défaire les genres. C'est-à-dire que d'un bout à l'autre du texte, les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des hommes, des oiseaux, des etc. Ça flotte, ça flotte, ça flotte. Pour parler de quoi? Pour parler de... Et c'est là d'où vient le titre et la couverture. Pour parler d'un texte majeur qui est la conférence des oiseaux, qui est la conférence des oiseaux, ce texte absolument majeur, où précisément là, selon Stacey Doris, la femme est encore une fois réduite à l'état d'objet. Et elle, donc, elle reprend ce texte extrêmement ancien, antique même, ce texte antique, pour essayer d'une part de le traduire, mais en le traduisant, d'exploser ce texte et d'exploser les relations genrées. Et il se trouve qu'en faisant cela, elle fait un livre au genre littéraire totalement impossible à définir. À tel point qu'elle l'a reconfiguré constamment. Quand elle le traduit en français, le livre devient très différent. Et quand elle en a fait aussi une version radiophonique, donc un atelier de création radiophonique, où elle a fait jouer des amis à elle, etc., et le texte devient encore bien différent. Et dans une lecture publique qu'elle avait faite, je m'occupe aussi d'un collectif, on organise des lectures publiques d'auteurs américains et d'auteurs français, donc elle avait lu dans ce cadre-là, elle avait dit « Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui veut lire le livre ?» Donc elle avait fait lire le livre en anglais à quelqu'un du public, à un français, donc une française en l'occurrence, qui ne savait pas très bien l'anglais, il faut bien le dire, et puis en même temps, donc elle lisait le livre, pendant toute la lecture elle a lu le livre, et en même temps elle a diffusé l'atelier de création radiophonique, donc ça s'entremêlait, et là encore, on ne savait pas trop ce que c'était que cette lecture, si c'était un canular, si c'était un nouveau genre qu'elle était en train d'inventer, si elle était en train de se défaire de son rôle d'auteur et de dire « Moi, l'auteur, j'en ai rien à faire, l'auteur, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est des discours et c'est des choses qui circulent constamment. Voilà, c'est ces trois auteurs dont je voulais vous parler pour précisément donc essayer de donner des pistes qui sont donc par rapport au genre littéraire, des pistes qui sont par rapport au langage et à la grammaire, des pistes qui sont aussi par rapport à qu'est-ce qu'on fait avec quand on a ou quand on se pense comme identité en mouvement ou non identité. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je te passe la parole.
Voilà. Donc, je vais juste vous montrer deux extraits. Donc, comment j'ai préparé cette conférence dont je savais que j'allais passer après un premier acte époustouflant. Donc, j'ai lu le texte de Cathy Hacker sur le genre que je connaissais pas. Et ça m'a fait penser à des films. Je me suis dit que, bien sûr, qu'il y avait des femmes cinéastes qui faisaient ça aussi. Et donc j'ai essayé de retrouver des exemples où des femmes alors j'avais jamais pensé à ce concept de pirater la langue, de pirater l'appareil cinématographique. Cela dit, j'avais déjà lu des gens qui l'avaient pensé mais qui ne l'avaient pas écrit comme ça, comme par exemple dans Technologies of Gender, qui est un livre hyper difficile à lire en français sur le cinéma de Doloretis. Et donc, je dis, ah oui, en fait, elle parle de la même chose. Elle parle de comment... Est-ce que le cinéma féminin, ça existe? Donc, évidemment, ben, la réponse est non. C'est comme l'écriture féminine, par essence, comme on l'a définie. On ne peut pas, quoi. Et en plus, on voit bien qu'il y a des femmes qui font des films qui sont quand même très similaires, qui reprennent les mêmes formules, qui utilisent les mêmes caméras, que ce qu'on avait pensé être fondamentalement... patriarcal, bah, si on met une femme derrière la caméra, est-ce qu'on peut encore dire que c'est fondamentalement patriarcal? Et si elle fait la même chose que faisaient les hommes, est-ce que c'est toujours patriarcal si c'est des films d'action où les femmes sont de faibles créatures qu'il faut sauver, etc. Évidemment, la plupart des femmes qui vont faire des films d'action ne vont pas faire exactement ces films-là. Et c'est ces femmes-là, ce sont ces œuvres-là qu'on étudie le plus, qui sont les plus accessibles, les plus faciles à comprendre et les plus grand public, tout simplement. Et elles sont très intéressantes. Et moi, d'ailleurs, j'étudie beaucoup la culture populaire, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est l'essentiel aussi de ce que j'enseigne. J'ai jamais montré ce film en cours, par exemple. Bon, ça m'intéresse beaucoup de voir comment... les minorités en général s'approprient finalement les outils qui ont été inventés, développés, utilisés et aussi explorés et transformés par la majorité, dans la majorité des cas, et comment ils vont, en fonction de quelle minorité on parle, arriver à se frayer un chemin, se faire une place au soleil, être reconnus comme Alice Guy Blaché pour le cinéma muet, ou Dorothy Asner pendant l'âge d'or hollywoodien, où elle était la seule femme qui appartenait à la guilde des réalisateurs américains, ou aujourd'hui Catherine Bigelow, qui a été la femme de James Cameron, et ça a bien aidé son début de carrière, et tant mieux pour elle. Tous les moyens sont bons. Et donc, je pense que ce sont des gens, des femmes qui, enfants, adorent le cinéma, comme la plupart des réalisateurs, on ne fait pas ce métier par hasard en général, et ne se voient pas là-dedans, et vont ensuite faire des films où elles vont représenter les femmes, ou représenter la masculinité d'une autre façon. Alors, il y a toujours un intérêt à ça. Mais ensuite, j'ai cherché des femmes, et donc le cinéma expérimental, très souvent, qui vont pirater ces formes pour, dans le même esprit que Cathy Hacker. Et donc, j'ai cherché dans Chantal Akerman. Je me suis dit, forcément, ça y est, il y a forcément, dans Chantal Akerman, a forcément fait ça. Et donc, en fait, j'ai, après avoir regardé plusieurs films, je suis tout simplement allée vers son film le plus connu et la première scène, je pense, pirate la forme cinématographique. Donc ça s'appelle Jeanne Dielman, 23 quai du commerce. Donc je vous résume en 2 minutes, parce que vraiment ça prend pas longtemps de résumer ce film. Vous allez voir la première scène, une femme dit au revoir à un homme qui lui donne de l'argent. On comprend à ses gestes quotidiens, très simple, enfin très vite, et puis parce qu'il lui donne de l'argent, qu'elle est prostituée. Et ensuite, tout le film, c'est sa vie quotidienne. Elle a un client de temps en temps. Jamais on va la voir au lit avec le client. Enfin, je ne vous dis pas tout, pour ne pas vous spoiler les dernières scènes. Mais, et c'est 3 heures, je crois. 3 heures, 21 et 48 secondes. Des gestes de quotidien qu'elle fait. Donc maintenant, on va regarder la première scène. Donc voilà. Donc maintenant, on va avoir 3 heures de film où elle va mettre l'argent dans la soupière à son fils qui rentre de l'école. Elle discute un petit peu avec lui, elle lui fait à manger. On la voit qui fait à manger, etc. Et donc, les mouvements de caméra, il n'y en aura pas. D'accord ? La caméra, elle est fixe. Si ça se trouve, Chantal Akerman, elle n'avait pas de caméra, elle avait un pied, on ne sait pas. La caméra, à chaque fois qu'on va changer de pièce, on va retourner dans une autre pièce où elle était avant, la caméra va être au même endroit. Elle va avoir peut-être 2 emplacements dans la cuisine, 2 emplacements dans la salle à manger, mais elle va toujours se retrouver au même endroit. Et l'actrice, quand elle se déplace, la caméra ne la suit pas. Si on ne voit plus sa tête, on ne voit plus sa tête. Si on ne la voit plus, on ne la voit plus, comme en ce moment. Et le film, en fait, est un peu fascinant. On est un peu comme devant une peinture d'art moderne, ou je ne sais quoi, où on est un peu mesmerized par ce qu'on voit. Et il y a très peu de dialogue. Il y a très, très peu d'action. C'est lent. Et à mon avis, ça utilise une caméra et ça, elle fait un film, mais relativement hors des codes habituels. Et en particulier, je pense que... alors, par exemple, elle utilise des symboliques comme font les hommes qui font des films depuis très longtemps, c'est-à-dire que cette serviette va symboliser tout au long du film. Elle remet la serviette propre, elle récupère une serviette sale, ça va symboliser le rapport qu'elle a eu. Puisque Laura Mulvey a écrit son article sur le regard masculin et le plaisir visuel dans le cinéma hollywoodien, et comment la caméra est. Il y a un triple regard masculin sur les femmes au cinéma, le regard de la caméra sur la femme, le regard de l'homme, de l'acteur, du personnage masculin sur la femme, et notre regard sur la femme, direct et à travers l'homme qui la regarde. Donc c'est ça en gros la théorie de Visual Pleasure and Narrative Cinema. Et là, dans ce film-là, ça devient difficile d'appliquer cette règle qui fonctionne dans le cinéma classique hollywoodien et dans beaucoup, beaucoup de films. Et même si c'est plus un regard masculin, parce que c'est une femme derrière la caméra, par exemple, ça continue de fonctionner. La caméra regarde un personnage qui est regardé par d'autres personnages, et nous, on regarde ce personnage directement et à travers le regard des autres personnages. On a l'impression que ça fonctionnera toujours. Sauf que là, du fait que la caméra ne bouge jamais, que les personnages ne semblent pas être suivis par un regard, ça casse ce fameux male gaze, et même peut-être tout court gaze, où on n'a plus le même rapport au film. Et par ailleurs, au niveau narratif, quelque chose que vont faire beaucoup de femmes qui font des films non expérimentaux, elles créent aussi une narration où, au départ, il y a cet échange d'argent avec un homme, donc c'est un personnage particulier, femme au foyer, qui par ailleurs est prostituée, on se croirait dans Weeds, vous voyez, même si elle n'est pas prostituée, elle vend de la drogue, mais il y a ce même fonctionnement d'étrangeté, on va dire. Et donc, en fait, ce premier échange d'argent, elle rentre dans une pièce, elle ressort, on comprend ce qui s'est passé. Ça va colorer toute notre vision du film et de tous ses gestes quotidiens. J'imagine encore plus à l'époque qu'aujourd'hui, où tout d'un coup, cette femme qui, par ailleurs, est bien sous tout rapport, à chaque instant du film, les trois heures qu'on la regarde, en fait, on regarde une prostituée. Et on se dit, mais comment c'est possible, etc. Et donc, il y a quelque chose d'intense en nous qui ne va pas être sur l'écran. Donc ça, c'était mon premier exemple. Et alors, le deuxième, beaucoup plus court. Alors, c'est le film de Julie Dash de 1991, Les filles de la poussière, Daughters of the Dust. Donc, ce film a été beaucoup, beaucoup remarqué quand il est sorti. C'est un film qui a mis 10 ans à être fait. Donc c'est le premier film fait par une femme noire américaine à être distribué nationalement dans le pays. C'est pas du tout le premier film par une femme noire américaine, mais c'est le premier qui n'est pas une vidéo, qui est en 35 mm et qui va ensuite être distribué nationalement, ça veut dire dans deux cinémas. Voilà. Et deux cinémas. Et ensuite, elle se retrouve numéro 1 au box-office par salle. C'est-à-dire que la salle de cinéma dans laquelle le film passe gagne, est celle qui gagne le plus d'argent aux États-Unis pendant 14 semaines ou quelque chose comme ça. Parce que c'est plein tous les jours, à toutes les séances pendant 14 semaines. Elle a trouvé personne pour financer son film, elle a mis 10 ans à le faire. Et c'est un film dont l'histoire assez compliquée à comprendre quand on revoit le film pour la première fois. C'est l'histoire d'une famille qui s'appelle les Peasant, prononcé Peasant et non pas Peasant, qui veut dire paysan. Et évidemment, ça s'écrit paysan, leur nom, mais ça se prononce Peasant, parce qu'ils parlent goula. Ils habitent dans une île sur la côte de Caroline du Sud. Ce sont des anciens esclaves qui sont maintenant libres, puisqu'on est en 1903, qui ont été libérés plus tard que les autres, et qui décident de partir sur le continent, juste pour avoir une vie plus moderne. Et lui, là, il parle à sa arrière-grand-mère, qui, elle, ne veut pas partir. Et donc, le film apprend un certain nombre de parties qui font qu'il n'a jamais été financé par personne. La première, c'est que quand elle va voir les studios, et elle en a vu plusieurs avec son scénario, ils lui disent « Ok, mais bon, il faudra faire des sous-titres. » Elle dit « Ah non, pas de sous-titres. » Elle dit « Bah oui, s'il n'y a pas de sous-titres, les gens ne vont pas comprendre. » « Ça m'est égal, je veux que les spectateurs aient à traduire et à comprendre la culture dont je parle exactement comme nous devons constamment comprendre la culture des Blancs. » Sachant que les Noirs américains ne vont pas non plus comprendre tout ce qu'ils disent. Hein, d'accord ? Et puis, deuxièmement, vous allez voir à quel point c'est mystique, au sens où la scène qu'on va voir, en gros, je vous donne les clés qui sont que l'arrière-grand-mère représente la déesse du vent et des éléments. Et il y a tout un système et toute une cosmologie dans son film, avec les noms des personnages, etc. Et en gros, pour comprendre le film, il faut lire le livre qui va avec. Troisièmement, les femmes sont au centre de l'image, 90% du film, et elles ont la peau très noire. Voilà. Donc je vous laisse regarder cette scène. Donc là, il vient de parler à sa grand-mère de ce qui est arrivé à sa femme, et on coupe et on voit ça. Et là, on revient sur lui qui parle à son arrière-grand-mère. Et le film est largement construit comme ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on vient de voir ses filles s'amuser sur la plage. Ils organisent un grand pique-nique, donc on peut considérer que c'est juste du montage parallèle. Mais il n'y a pas, y a jamais d'explication de pourquoi on passe de l'un à l'autre. Et ensuite, je vous remontre un passage très court et très beau, esthétiquement. Ah non, c'est autre chose, hein, ça va. Voilà. Pardon, ce que je vous montre après, c'est donc, lui, il explique à son arrière-grand-mère que c'est insupportable parce que sa femme s'est fait violer et qu'il ne sait pas par qui, d'accord ? Et donc là, vous écoutez la façon dont sa grand-mère lui... Alors, je ne sais pas si vous entendez, donc je n'ai pas de sous-titres puisque le film n'a pas été sous-titré. Et elle est difficile à comprendre.
Respect your elders. Respect your family. Respect your ancestors. You don't worry that baby Eula Karen ain't young. Cause she get forced. You won't have no baby that was sent to you. The ancestor and the womb, they run, they the same. Those in this grave, like those went across the sea, they with us, they are the same. The ancestor and the womb. Call on your ancestors, Eli. Let them guide. You need their sweat. Eli, I need for you to make the family stronger. Like we used to.
How can you understand me and the way I feel? This happened to my wife. My wife! I feel like she's mine no more. When I look at her, I feel like I don't even want her no more.
You can't give back what you never owned. You'll never belong to you. She married you.
Et donc j'ai gardé joué cette phrase en plus de l'esthétique du film en général et à quel point les visages de femmes noires sont au centre de l'écran et aussi le discours féministe de base qui est je supporte pas, comment tu comprends pas ce que je ressens, ma femme a été forcée, je sais pas comment dire ça en français, j'ai l'impression qu'elle ne m'appartient plus, j'ai même plus envie d'elle, et là elle dit mais tu ne peux pas récupérer ce qui ne t'a jamais appartenu. Ta femme t'a épousé. Comment elle dit ?
T'as baigné.
She married you.
She loved you.
Non. She married you. She didn't. Je ne sais plus quoi. C'est juste. Elle ne s'est pas donnée, quoi.
I don't feel like she's mine no more. When I look at her. I feel like I don't even want
to
know more.
You can't give back what you never owned. You'll never belong to you. She married you.
Voilà. Lula ne t'a jamais appartenu, elle t'a épousé. Et ce film a eu donc beaucoup de succès. Elle a été énormément vue en vidéo, en DVD. Il a été beaucoup commenté par les professeurs d'université, beaucoup vu en cours. Moi, je l'ai montré en cours à l'époque, enfin, un petit peu après. Aux États-Unis et les étudiants, ils disaient, mais on peut mettre des sous-titres, sourire malentendant. Et donc, c'était aussi pédagogiquement un très très bon outil pour parler de réception et de décryptage du cinéma grand public. Et ce film, donc, parce qu'il a mis les femmes noires au centre de l'image quand personne ne le faisait, et malgré une narration inhabituelle, lente, difficile à suivre, a été énormément appréciée. Et en plus, j'ajoute, par une population qui n'était pas forcément très éduquée. C'est pas les gens qui ont été au cinéma toute la journée. Bon, alors c'était à New York et à Los Angeles, mais c'était pas non plus que des étudiants de l'université qui allaient voir ce film. Et donc, ce film aussi répondait à un besoin, mais tout simplement, aller créer des images qui n'existaient pas et transformer ce qui était perçu comme un regard sur les femmes noires et sur les noirs. Julie Dash, et elle a pas fait énormément de choses depuis.
Épelle le nom, je pense.
Dash, D-A-S-H, et elle a fait un film télé sur Rosa Parks, qui est très bien. Je ne sais pas ce qu'elle a fait récemment, mais elle n'a pas fait beaucoup de films après. Et c'est un film qu'elle a mis il y a des années et des années à faire, et où elle a eu la chance ou la bonne idée, enfin elle a réussi à ce que Arthur Jaffa, qui est un caméraman noir, a accepté de travailler pour quasiment rien, et c'est un grand cinématographe, et il a fait un super travail sur le film, et c'est aussi ça qui a fait le succès du film, parce que déjà là c'est beau, mais en grand écran et à l'époque en 35 mm c'était vraiment très beau. Et il y a beaucoup de plans sur des quilts de toutes les couleurs, enfin là il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, et c'est quand même, et puis aussi non seulement elle met les femmes noires au centre, mais elle choisit quand même de se décentrer complètement des stéréotypes, c'est-à-dire rien que par l'histoire, déjà elle raconte une histoire que personne ne connaît, elle les habille pas comme aujourd'hui, donc elle n'a pas le côté est-ce qu'elles vont être habillées comme dans les clips de rap et tout, ben non, parce qu'on est en 1903 et en plus elles sont sur une île à l'écart, etc. Et donc il y a une dignité en fait dans ce film qui est induit par le lieu et le temps où ça se passe, qui en fait un objet totalement hors du carcan des stéréotypes qui avait été beaucoup étudié à l'époque, qui commençait à être bien connu, compris de beaucoup de gens, des producteurs, des réalisateurs, du public. Et là, en fait, elle s'en écarte, et, y compris par la langue, puisque moi, je sais que la première fois que j'ai vu ce film, maintenant, je comprends très bien Nana, j'ai l'impression que je me suis habituée à la grammaire, parce que j'ai vu ce film beaucoup de fois, mais la première fois que j'ai vu le film, c'est vrai, j'ai rien compris, quoi, vraiment. J'avais du mal, j'ai mal compris l'histoire, par exemple, le fait que sa femme a été violée, qu'il ne sait pas qui est le violeur, à un moment, il lui demande, mais dis-moi qui c'est le violeur, dis-moi qui c'est. Et elle lui répond qu'elle ne veut pas lui dire parce que rien de bon n'adviendra s'il sait qui c'est. Bon, ça veut dire qu'il est blanc, parce que sinon elle pourrait lui dire, quoi. Et que si, donc s'il essaye de faire quoi que ce soit contre le violeur, il va se faire pendre. Tous ces trucs-là, tous ces détails qui fait qu'on arrive à suivre l'histoire, pour la plupart des gens, la première fois qu'on voit le film, on passe à côté, en fait, tellement... Il y a beaucoup d'autres informations. C'est ça aussi, c'est qu'il y a une autre chose que rejette complètement ce film et que rejette la plupart des cinéastes qui ne sont pas commerciaux, pas expérimentaux, c'est qu'il y a plein d'informations dans le film qui ne sont pas utiles à la narration, qui sont des signes de la culture, de tout un monde qu'elle évoque, etc., qui ne sont pas expliqués et du coup qui nous perdent. Alors que quand on regarde un film hollywoodien, l'autre jour j'ai revu ce film que j'adore qui s'appelle Au revoir à jamais, qui en anglais s'appelle The Long Kiss Goodnight, avec Samuel Jackson et Gina Davis, où Gina Davis est amnésique et elle est femme au foyer amnésique, et puis petit à petit elle se rappelle qu'avant elle était tueur pour l'état fédéral, et donc plein d'actions, etc., et c'est un film féministe au sens où elle va tuer tout le monde, enfin bon, bref. Et dans ce film, chaque détail de la première partie du film où elle est femme au foyer, par exemple, à un moment, elle part, elle laisse sa fille derrière elle, elle lui donne un nounours, elle dit, et le nounours, il a une clé autour du... Non, elle enlève un collier de son cou, elle lui met sur le nounours de sa fille, et il y a une petite clé, elle lui dit, tiens, le nounours, c'est mon collier, ils te protégeront pendant que je ne serai pas là, et regarde, ça, c'est la clé de je ne sais pas quoi, etc. Et nous, on se dit, ah, la clé, c'est sûr que ça va être utile plus tard dans le film. Et finalement, c'est la clé de la boîte de son compte en banque qu'elle avait créée quand elle était tueuse, etc. Et dans les films hollywoodiens, ils sont construits comme ça. Tout est utile et on a un plaisir à dire, ah oui, la clé. Ça s'appelle, dans le langage hollywoodien des producteurs, c'est payback. Donc on est remboursé d'avoir bien écouté. On est récompensé d'avoir bien écouté, bien fait attention à tout. Dans ce film-là, oui, il faut faire attention à tout, mais on n'a pas la réponse. On n'a pas avoir la réponse. C'est pas le film qui va nous donner la réponse. C'est la discussion avec les autres après. C'est aller lire le livre qu'elle a publié en même temps que le film. C'est aller chercher la culture, la religion yoruba dans une bibliothèque aujourd'hui, dans Wikipédia, va tout nous dire sur comment comprendre ce film. Il va falloir travailler derrière et le revoir et comprendre tous les petits détails. Par exemple, au début, il y a 10 minutes d'introduction, c'est que des détails de la culture Gula que nous, on ne comprend pas. C'est beau, mais on ne sait pas ce que ça veut dire.